Deuxième partie du magazine OKP Service, comment préserver les zones humides de la RDC. Nous en parlons avec le professeur Corneille Ewango, il est écologiste et enseignant à la faculté des sciences de l'université de Kisangani. Professeur Corneille Ewango, bonjour.
Bonjour Tati Kwande, bonjour Radio OKP, bonjour chers auditeurs.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'OKP Service. Nous aurons comme deuxième invité le professeur Moutambo Echango, il est spécialiste en écologie du milieu aquatique. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'OKP Service et n'hésitez pas à nous laisser également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo coordonne et réalise cette émission et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette deuxième partie d'OKP Service.
OKP Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Capi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Capi.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Comment préserver les zones humides de la RDC? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'OKP Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Les berges des rivières et des cours d'eau des zones urbaines de la RDC sont constamment exposées à la spoliation. Profitant du dérèglement généralisé des services de l'urbanisme, presque toutes les berges des cours d'eau, des zones inondées sont aujourd'hui occupées par des constructions anarchiques, y compris les zones humides. Quant aux lits des rivières, celles-ci sont occupées par des déchets en plastique, des bouts de vidange, des carcasses d'animaux et autres ordures en provenance des ménages. Comment préserver les zones humides de la RDC? Quel est le rôle que jouent les zones humides dans l'écologie aquatique et terrestre? Nous en parlons avec nos deux invités. Nous, au téléphone, nous recevons depuis la ville de Kisangani les professeurs Ewango Corneille. Il est écologiste. Professeur, d'entrée de jeu, que devons-nous comprendre par les concepts zones humides?
Merci bien Tati Kwande, Radio Capi, chers auditeurs, mais je me dois de saluer un peu mon co-débatteur, le professeur Moutambo, que j'ai vu ça fait très longtemps. Professeur, bonjour.
Il arrive, il est en train d'accéder au studio. Il est temps de remplir les formalités à la réception.
Ok, merci bien. Nous devons d'abord fixer nos auditeurs par ce que nous attendons par zones humides. Les zones humides sont tout étendues, gorgées d'eau en permanence ou périodiquement inondées et qui, dont la profondeur lors des inondations ne dépasse pas 6 mètres de profondeur. On attend par là les marais, les forêts marécageuses périodiquement inondées ou inondées en permanence, les bords de cours d'eau, les interfluves, donc les zones qui sont entre des grands cours d'eau, mais qui restent toujours en permanence gorgées d'eau, ou bien les savanes qui sont entre des cours d'eau et qui sont périodiquement inondées. Et aussi dans des milieux urbains, ce sont tous ces marécages qui sont dans les milieux urbains ou dans le marais, comme il y a beaucoup de marais à Kinshasa, il y a beaucoup de marais aussi ici à Kisangani, qui sont soit transformées comme des zones et des étangs piscicoles, mmh. ou qui restent encore des marais et qui sont en train d'être desséchées pour être récupérées par des installations anarchiques. Les zones humides peuvent être aussi des marais artificiels qui sont entretenus pour une cause quelconque. Ce sont là ce que nous appelons les zones humides. Et dans les cas exprès de la République démocratique du Congo, avec son vaste réseau de grands cours d'eau, il forme un grand bassin de zones humides qui est constitué en grande partie entre l'ancienne province, l'actuelle province de l'Équateur, la Chuapa, le Maindombe, une partie du Kwilu-Kwango, et qui va jusqu'à la zone de la Sanga dans l'autre République du Congo, qui constitue le grand bassin des zones humides de l'Afrique centrale.
Et quelles sont les activités qui peuvent être menées, réalisées dans ces zones humides? Est-ce qu'on peut, le préserver pour des raisons touristiques, pour des raisons de l'équilibre de la nature? Ça joue exactement quel rôle dans l'écologie?
Bien, merci Tati et Radio Capi. Donc, ces zones peuvent être préservées. Bon, pour les effets, l'effet touristique, oui, vu leurs immenses étendues, car, par exemple, dans le cas de la cuvette centrale congolaise, ces zones, y compris aussi, hébergent à leur sein, par exemple, les lacs Maindombe, les lacs Tumba et tous ces lacs qui sont si rapprochés là, sont dans les zones humides. Donc, ils peuvent jouir d'un statut de tourisme et de navigation. Mais si on doit les préserver, c'est surtout de par leur rôle écologique et des services écosystémiques que ces zones pourvoient à l'être humain et à l'humanité. C'est là où vient leur importance et on doit quand même les préserver. Parce que ces zones, sur le plan des services écosystémiques, ils sont des zones de production. Il y a beaucoup d'espèces dont l'homme tire pour sa nourriture. Donc, ils constituent pour nous une réserve alimentaire, par exemple en poisson. Ce n'est pas pour rien que la cuvette centrale, le Maindombe, l'Équateur, la Chuapa, sont des grands producteurs de poissons, parce qu'il y a dans ces zones humides une forte diversité et des quantités énormes de poissons qui se reproduisent que dans ces zones-là. Et il y a aussi les plantes. Il y a certaines plantes qui sont à la fois alimentaires et médicinales qu'on peut tirer de ces zones. Il y a aussi certaines plantes qu'on peut utiliser, par exemple, pour la construction. Donc, vous comprenez que ça rend des énormes services à l'homme pour sa subsistance et pour son bien-être. En ce qui concerne l'équilibre écologique, ces zones constituent des réserves énormes d'absorption de carbone. Donc, il y a dans ces zones toute la grande partie des tourbières que nous connaissons, par exemple, dans la cuvette centrale, ils sont dans la partie des zones humides. Et de par leur rôle écologique, ils sont très importants pour atténuer les changements climatiques. Et aussi, comme rôle écosystémique dans la production, ce sont des zones humides, c'est qu'ils sont gorgés de grandes quantités d'eau et ils servent de réservoir pour nos cours d'eau. Toutes les grandes rivières que nous avons, pendant l'étiage, ils sont desservis en eau par les zones humides, par les tourbières, par les marais, par les forêts marécageuses qui regorgent encore en grande partie d'eau. Non seulement parce qu'ils nous pourvoient en eau, mais ils constituent des filtres écologiques. Donc, ils sont très très importants pour un peu traiter de la pollution des cours d'eau, de la pollution des déjections urbaines, par exemple. Tous ces déverses peuvent être filtrés dans ces zones humides, dans le marais, par exemple, qui sont en plein milieu urbain. Donc, ils jouent un rôle important à ce sens-là. Donc, comme des filtres écologiques, mais ils jouent aussi en même temps un rôle d'absorbateur. Donc, ils absorbent l'inondation. Donc, quand il y a de grandes inondations, les zones humides, le marais, les forêts marécageuses peuvent absorber, contenir les excès d'eau et les garder à leur sein. Donc, c'est comme ça que vous voyez, par exemple, les cas typiques de la ville de Kinshasa, parce qu'on a pollué tous les marais qui jouaient ce rôle-là Et voilà, quand il y a des inondations, on ne sait pas les contenir. Donc, c'est très important en milieu urbain comme dans des milieux ruraux que nous puissions préserver les zones humides car ils jouent un rôle écologique très important et ils sont aussi des rôles de producteurs pour l'être humain, pour son bien-être. Donc ils nous pourvoient en eau, ils nous pourvoient en aliments. Et voilà comment on doit les préserver. Mmh. Et sur le plan de la biodiversité,
oui,
ils sont les zones de reproduction par excellence des poissons et des zones de reproduction par excellence pour les oiseaux. C'est comme ça que nous voyons dans la cuvette centrale congolaise, entre l'Équateur, la Chuapa et la Sanga de l'autre côté, il y a une forte diversité d'oiseaux et il y a ce qui constitue aussi une zone de migration des oiseaux qui viennent parfois des États-Unis, de l'Australie, de l'Amérique, ils viennent se reproduire là et on peut les voir en de grands troupeaux, de grandes cohortes parce que ça joue ce rôle écologique-là. Des reproducteurs, des oiseaux et de reproduction des zones de frayeur pour les poissons.
Oui, professeur Corneille Wango, nous vous signalons l'arrivée d'ici au studio du professeur Mutambu Shango. Il est spécialiste en écologie du milieu aquatique. Vous l'aviez salué à l'introduction de cette émission. Professeur, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bon, salut.
Oui, on est en train de parler de la préservation des zones humides en RDC. Dites-nous, prof, quel état des lieux faites-vous des zones humides, surtout ici à Kinshasa?
Mais
dans quel état elles se retrouvent aujourd'hui?
Mais ce qui entre par la bouche sort par le nez, le professeur. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est ce que j'allais dire. Et il a dit encore mieux parce qu'il est encore jeune et il est en train de palper les réalités que moi j'ai connues il y a 20-30 ans.
Oui, pour les cas précis de Kinshasa, quel est le constat que vous faites, vous, en tant que spécialiste de l'écologie du milieu aquatique?
Eh bien, je peux vous dire, confirmer ce qu'il vient de dire. Ici à Kinshasa, nous avons le poule Malebo, n'est-ce pas, qui devait jouer un rôle très important des zones humides. Je dis bien qu'il devait, et qui aujourd'hui ne joue plus ce rôle-là.
Mais pourquoi?
Ben, je ne dis pas que parce que Kozanga Koye Bezali Liwa, mais parce que nous ne connaissons pas l'importance de ces zones humides. C'est dommage. Je peux vous dire, à l'an 2000, j'ai fait une conférence avec le professeur Lelo et j'ai parlé de l'importance des zones humides et de l'importance qu'on donne à ces zones-là. Et je disais à l'époque que l'utilisation des zones humides ici va nous créer des problèmes sérieux.
La mauvaise utilisation, en fait.
La mauvaise utilisation. Pour moi, écologiste du milieu aquatique. Mais pas pour les gens de l'IPTR, pas les gens pour les affaires foncières qui donnent les terrains. Tout cela, ça ne leur dit rien. Je dis après cette conférence-là, deux semaines après, il y a eu inondation au niveau de Bia. 75 morts. J'avais dit, deux semaines après, 75 morts. J'ai fait encore une conférence avec le professeur Kayembe, il y a à peu près 15-16 ans, où il a prouvé avec ces images satellites, que si on parvenait à construire tout ce qu'on prévoyait dans la cité du fleuve, Ndolo risque même de se noyer. N'est-ce pas? Et moi, j'ai parlé de tout ce que le professeur vient de dire, le rôle biologique des zones humides, source de nourriture des poissons, zone de reproduction des poissons, zone d'alimentation aussi pour nous.
Oui.
Ok. Zone de migration, tout. J'en ai parlé. Et vous n'êtes pas sans savoir les inondations que nous connaissons.
Oui.
Et aujourd'hui, pas plus loin que...
Mais est-ce que les enquêtes de viabilité, avant de céder ces espaces-là qui ont une importance très capitale dans l'équilibre écologique, on ne demande pas l'avis de vous qui êtes spécialiste?
Je suis en train de... Je continue toujours à me demander si vraiment il y a une réflexion avant que l'on distribue des terrains. Nous tous, nous, il y a les affaires foncières. Est-ce qu'ils connaissent le rôle des zones humides? Il y a l'urbanisme. Est-ce qu'ils connaissent le rôle? Il y a IPTR. Est-ce qu'ils connaissent le rôle? Et au niveau national et au niveau provincial. Ça m'étonnerait. Alors, quand on doit travailler avec les gens qui n'ont aucune idée de l'importance d'un secteur, ça ne vaut rien. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, mais maintenant, nous vivons les conséquences au fait du non-respect, au fait de l'utilisation ou du rôle que jouent ces zones humides. Est-ce qu'on peut renverser la tendance aujourd'hui? Parce qu'on a vu, une semaine, le gouverneur est passé dans la baie d'Engaliema pour procéder à la démolition des maisons construites anarchiquement sur la berge de la baie d'Engaliema.
Est-ce que c'est possible? Ça m'étonnerait. Vous m'excuserez de revenir à l'histoire. À l'an 2000, quand j'ai créé le laboratoire de cartographie numérique à l'école régionale post-universitaire, nous avons inventorié avec le professeur Bouangoï, qui à l'époque était mon assistant, qu'il y avait 129 têtes d'érosion à Kinshasa. Ça m'a étonné. J'ai pris la carte du sol laissé par les Belges. Savez-vous que de l'IPN jusqu'à Sana, jusqu'au campus, c'était une zone qui était interdite à la construction. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire aux gens qui sont là, de l'IPN jusqu'à l'hôpital des sanatoriums,
de quitter les lieux?
De non. Quitter les lieux?
Impossible. Ils vont aller où?
Bon. Donc, mais ils peuvent faire comme moi, j'appelle vous autres, vous deux de la radio, Capu, les hommes capables de ressusciter les gens. Parce que ce sont des choses qui sont passées, mais voilà que vous le mettez en surface.
Oui.
Maintenant, c'est trop tard. Mais le seul vocabulaire qui nous reste au Congo, l'État, tel est l'abisso du Cambouille. Mais quand vous occupiez ces histoires-là, vous ne pouviez pas réfléchir. Vous êtes au bord de la rivière Makerere. Et vous savez qu'il y a inondation tout le temps. Et puis vous vous permettez d'acheter. Qui est fautif? Je crois. Et l'acheteur et le vendeur.
Oui.
Donc on a affaire, je m'excuse, aux gens qui, je ne dis pas ignorants, mais les gens qui ne connaissent pas la valeur du sol. Et surtout des écosystèmes aquatiques. Qu'on néglige et pourtant on ne peut rien faire dans ce monde sans qu'il y ait de l'eau.
Je reviens à vous, professeur Corneille, avant de donner la parole aux auditeurs. Hein, dites-nous, au niveau de la province de la Tchopo, les zones humides, elles sont dans quel état? Est-ce qu'elles sont très bien préservées? Professeur Corneille Wango, vous êtes en ligne, est-ce que vous m'écoutez? Malheureusement, il est temps pour la réalisation de rappeler professeur Wango. Nous donnons la parole au premier auditeur. Comment préserver les zones humides de la RDC? Si vous êtes intéressé par ce sujet, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Par SMS, envoyez-nous vos questions, suggestions et témoignages au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Monsieur Malonga, vous êtes à Bandunduville. Bonjour.
Bonjour Tati, bonjour à tous ceux qui nous suivent et à nos invités là-bas.
Oui, nous parlons de comment préserver les zones humides de la RDC. Vous êtes à Bandundu-Ville, certainement il y a aussi des zones humides. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
La réponse est directe Tati, c'est il faut procéder à la bonne gérance de la Res Republica. Puisque si la politique de la gérance des agglomérations n'est pas bien orientée, c'est-à-dire, c'est ce que notre invité disait là, d'Engaliema, de l'IPN jusqu'à sanatorium, il y a eu la forêt là-bas, il y a eu la forêt, moi je connais là, je passe aussi par des raccourcis de Kitambo ici pour sortir à côté de Mongafoulala. Mm. En tout cas, si vous passez par ces raccourcis, vous verrez vraiment la forêt équatoriale, qu'il y avait une forêt là-bas. Si cette forêt existait jusqu'à aujourd'hui, je crois que la régularisation de la température à Kinshasa serait un peu adaptée. Ici chez nous, à Bandundu-Ville, ou bien au Kouilou, hein, pour ne pas se répéter, si les gouvernants ne tiennent compte pas du mouvement de la population, je vous dis, Tati, vous pouvez voir Kinshasa si vous êtes à Gombe, à Kasavubu, au centre de Kinshasa là. Mais si vous restez aux extrémités des villages ou bien des villes, vous verrez comment est-ce que la population, il y a un mouvement de la croissance et de l'avancement des villages et des villes. Vous verrez d'ici quelques années ou bien quelques jours, les Mangengenge seraient au centre de Kinshasa. Et ici chez nous aussi, la ville de Bandundu, ce qui était en 2006, si ils arrivent aujourd'hui ici, ils vont regretter. Alors si il y a la croissance des habitants dans une ville, c'est les dirigeants qui doivent gérer ça, qui doivent implanter ou bien les lotissements. Vous verrez que service de cadastre arrive à vendre même les cimetières. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ils arrivent plus aussi à vider un marché ou bien un petit marché, à vider ça, à vendre ça, à cause des cautions qui ne contribuent même pas à la trésorerie publique. Alors ces zones humides seront vraiment à la disparition. Bon, les villages qui sont frontaliers des forêts. Alors il y a les agents de l'État là. Vous verrez qu'ils vont lotir une grande partie de la forêt. Et puis les villageois sont là. Ils vont couper, ils vont défricher cela. Et puis construire les maisons. Et là où il y a la population, il doit y avoir aussi un mouvement de ces populations. Alors s'il y a un mouvement, la culture. Si la culture est là, vous voyez cette zone va disparaître. D'où c'est la bonne gérance de la République, comme je l'avais dit.
Ok, merci beaucoup. Oui, monsieur Malonga. Ok, merci. Donc vous plaidez pour la bonne gestion de l'espace vital. Merci beaucoup. Nous allons cette fois-ci à Lubumbashi pour donner la parole à Charles. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour, Ofaya, professeur.
Nous parlons de la protection des zones humides. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
D'abord, nous regrettons, monsieur Tati, ici à Lubumbashi, parce que les zones humides à compter au bout des doigts. Mais malgré cette carence-là, mais il y a encore spoliation par des sociétés minières locales. Alors, on ne sait pas vraiment si on est en train de raisonner, de réfléchir dans le futur. On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver, va nous rattraper, sinon c'est vraiment déplorable. Et pour terminer...
Oui, dites-nous, moi, Charles, s'il vous plaît, ces entreprises minières font exactement quoi dans ces zones humides?
Bon, ils sont en train de diverser quoi ça, leurs acides, des produits là toxiques, en tout cas, c'est du n'importe quoi. Et pourtant, Lubumbashi souffre vraiment en zone humide. Alors, on devait préserver un bon père de famille, les quelques-unes là qui existent, mais malheureusement... C'est du n'importe quoi. Voir même les immondices. sont toujours déversés
dans ces endroits. Ok.
Oui, à cet endroit-là. Alors, c'est déplorable pour nous. Alors, j'aimerais encore demander, est-ce qu'il existe d'abord une loi protégeant les zones humides en RDC? Voilà un peu ma petite question que j'avais.
Merci beaucoup, Charles. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Professeur Corneille, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, Tati.
Oui, je voulais savoir quel est le constat que vous faites au niveau de la Tchopo. Est-ce que les zones humides sont intégralement protégées?
Merci beaucoup. Je crois que le constat est le même comme l'a déploré mon ami professeur Mutambwe et aussi les auditeurs qui ont parlé, qui sont intervenus, dont celui de tout à l'heure de Lubumbashi, de Katanga. Mm. Le constat est amer et c'est partout comme ça. Ici, dans la ville de Kisangani, je crois que je me rappelle l'année passée, on a parlé de ça, si c'était à l'occasion des journées de l'environnement. Mm. Toutes les zones humides, comme je l'ai brossé là, que pour les écosystèmes urbains, il constitue le filtre naturel et aussi le filtre pour la pollution. Ils sont en train de disparaître. Tous les grands marais qui étaient à l'intérieur de la ville sont desséchés pour les récupérer et les transformer en zone d'habitation. Et c'est ce qui est très triste parce que la ville est extrêmement polluée et il n'y a pas de pollution par la nature. Il y a de même, dans certains faubourgs, recoins de communes, les gens utilisent encore les eaux de puits, mais ces eaux sont épurées par les zones humides. Et comme l'a dit l'intervenant, l'auditeur de Lubumbashi, donc les zones humides sont devenues des zones de déversoir de déchets de toutes sortes. Les déchets en plastique, les déchets ménagers, même les déchets industriels, alors qu'ils devraient constituer les zones de filtration, d'épuration, surtout de l'eau qui va dans les rivières, et aussi des zones d'oxygénation pour les écosystèmes urbains. Donc, ici à Kisangani, quand je profile un peu ma vision à travers la ville, je ne reconnais qu'une seule zone humide qui est à côté de l'université de Kisangani, bien que transformée en une zone de riziculture, mais il continue quand même à demeurer humide. Les autres zones, s'ils sont humides, alors elles sont exploitées par exemple pour l'extraction de sable et l'écosystème est en train de se transformer parce que ces zones ne peuvent pas jouer réellement leur rôle s'il n'y a pas de la végétation. Donc c'est un peu très triste que nous pensons qu'il y a une collaboration entre les services étatiques, le ministère de l'aménagement du territoire, dans son ressort, et tout comme le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, ils doivent travailler en étroite collaboration pour voir quelles sont les zones qu'on peut lotir, quelles sont les zones qu'on peut attribuer et pour quel rôle. On ne doit pas croire que on doit seulement voir ce qui va entrer, qui n'entre même pas dans les caisses de l'État, mais en train de détruire l'écosystème dont nous dépendons tous. Donc, nous pensons qu'il est grand temps que les différents systèmes étatiques qui interviennent dans la gestion des terres, dans l'aménagement, dans l'urbanisme, qu'ils regardent un peu ces problèmes-là. Parce que quand il y aura des inondations, nous n'aurons que nos yeux à pleurer, comme l'a dit le Némoutambo, l'État Talélabissolikambo. Mais c'est ce même État, quand il vient vous donner, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vouloir construire dans une zone qui est marécageuse, qui est humide, et quand il y a une catastrophe, vous venez encore pleurer. Donc, nous devons comprendre que ces zones, ils ont une grande importance de leur conversion parce que sinon, la ville n'a pas un moyen de défense naturelle dans le cas de catastrophes naturelles, surtout dues aux inondations et aux pollutions.
Nous vous gardons en ligne, professeur. Ne quittez pas la ligne. Gardez l'écoute. Professeur Mutambwe, le village Siloué a disparu hein, dans le versant des ponts Matété. Et je vis même, il y a un bar, un grand bar qui a vu le jour juste au-delà du pont Matété, au bord de la rivière Djili.
Mais Kinshasa, c'est pire. Mais je regrette, toutes les autorités sont à Kinshasa. Mais
tous passent par là aussi. Pire.
Tout le monde voit. Écoutez, si vous regardez le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa laissé par le Belge, nous spécialistes, moi, je pleure. Savez-vous que Ngaba, personne ne pouvait construire à Ngaba. C'est une grande zone humide. Et aujourd'hui, savez-vous que Kingabwa, personne ne pouvait construire. Savez-vous là où se trouve Kingaboa, donc tout ça, là, jusque cité des fleuves. Et même Ndolo, personne ne pouvait construire. Le grand marché là, mais c'est tout un problème, venait après la pluie. J'ai fait des petits travaux avec les étudiants. Si vous regardez les bichakuchaku.
Oui.
Et là, les gens jettent même les produits qu'ils vendent malgré la saleté.
Les produits invendus, oui.
Mais je ne sais pas. Et on va dire qu'il y a un ministère d'aménagement du territoire.
L'auditeur de Lubumbashi, M. Charles, voulait savoir, est-ce qu'il y a une loi qui protège les zones humides en RDC?
Apparemment, non. Je n'ai pas encore vu.
Mais il y a quand même.
Je vais terminer. Savez-vous qu'à un moment donné, il faut féliciter le maréchal Mobutu. Kinshasa avait la ceinture verte. La ceinture verte, c'est quoi? C'est les zones humides. L'Embaïmo que vous connaissez, Ndjili Brasserie. Mais c'était le grenier. Tuenge, c'était le grenier. Et aujourd'hui, ce sont des maisons d'habitation autorisées par les autorités. Alors, que pouvons-nous tirer comme conclusion? Qui a aménagement? Qui a un ministère qui s'occupe des affaires foncières? Qui connaît les tenants et les aboutissants de tout ce qui peut se passer si on occupe ces zones-là? Enfin, je ne sais pas.
Professeur Ewango, dites-nous, est-ce qu'il y a des lois et des conventions internationales qui protègent les zones humides dont nous sommes membres et dont la RDC a eu à ratifier?
Merci bien. Pour la question, et le vieux Moutambo vient de le dire, à notre connaissance, pour la RDC, nous n'en connaissons pas, mais à l'international, il y a des conventions. Les zones humides sont protégées par la loi Ramsar. Ils sont des sites Ramsar, donc des sites de conservation intégrale dont aucune activité ne peut être faite à cause de leur valeur écologique et de leur forte biodiversité irremplaçable qu'on ne retrouve que dans ces zones. Donc, le Congo applique les lois des conventions internationales du site Ramsar. Mais à ce que je sache, je n'ai pas encore vu une loi congolaise qui protège les zones humides.
Ça reste un problème. Gardez la ligne, restez à l'écoute. Nous allons revenir à vous. Le temps pour nous de retourner au standard pour donner la parole aux auditeurs. Comment préserver les zones humides de la RDC? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Patient, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Chers journalistes, bonjour à tous les invités, bonjour à tous nos auditeurs, aussi à moi-même, Patient Chitok, je vous appelle depuis Lubumbashi.
Oui, nous tablons sur la préservation des zones humides de la RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous révéler par rapport à ces sujets? S'il vous plaît, réduisez les volumes de la radio, ça risque d'altérer la qualité de la communication. Éteignez la radio, oui. Écoutez-nous au téléphone. Allez-y.
Oui, merci, chers journalistes. Je me suis déplacé même là où il y avait la radio.
Parfait.
Là, vous m'entendez bien?
Très bien.
Ok. Bon, je voulais d'abord commencer par les zones humides. Bon, je ne comprends rien avec les zones humides. Alors, je vais d'abord tirer... Je ne comprends rien avec nos autorités. Zones humides, on doit quand même les entretenir, aussi savoir ce qui se passe avec la population. Si vous remarquez bien, messieurs, chers journalistes animateurs de l'émission, ici à Lubumbashi, s'il y a le problème de choléra, c'est toujours ici à Lubumbashi. Il y a des immondices, des... quand on a commencé déjà, j'étais dans des... Il y a plusieurs maladies qui peuvent nous attaquer à partir des immondices dans des...
La communication se dégrade avec Lubumbashi. Excusez-nous, patient. Je pense que Marcel hein, doit vous rappeler. Nous allons revenir à vous prochainement. Retournons ici à Kinshasa pour donner la parole à Monsieur Roger. Monsieur Roger, bonjour.
Bonjour, Monsieur Tati, et bonjour à nos invités. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Nous parlons de la préservation des zones humides. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Bon, Monsieur Tati, vous savez que au Congo, c'est toujours le même sujet. On a déjà eu à parler sur ce sujet à plusieurs reprises.
Oui.
Ce que moi, je me demande, vraiment, parce que l'État congolais n'existe pas aujourd'hui. Regardez un peu ces zones-là. Le professeur a soulevé, a dit qu'il avait dit sur un plan à partir de l'Inikin, à partir de l'IPN jusqu'au niveau des campus. Ces zones-là n'étaient pas prévues pour qu'on puisse construire. Mmh. Mais aujourd'hui, si vous allez à cet endroit-là, vous allez voir, il y a vraiment du n'importe quoi. Et regardez, aujourd'hui, si vous quittez de l'Inikin vers Ipen, il y a vraiment une petite rivière qui est à cet endroit-là. Donc, l'eau manque un endroit où aller. L'eau, donc, si vous passez avec votre véhicule, avec la moto, donc c'est terrible. Mais ce sont des zones qui étaient vraiment prévues pour qu'on ne puisse pas construire. Parce qu'aujourd'hui, nous subissons ces conséquences-là. Parce que si on avait vraiment un État congolais qui était vraiment responsable, on a déjà dit on a 4 ministères. Si ces gens-là se réunissent et puis faire au moins quelque chose, c'est pas aujourd'hui se réveiller, on doit aller enlever ces gens qui se retrouvent dans cet endroit, on doit aller au Ibakoué. Mais tout ce temps-là, si l'État avait au moins prévu quelque chose, dit ces endroits ici ne sont pas prévus pour vendre. Et puis, ça allait, tout le monde allait mettre ça dans sa tête. Mais si vous laissez, et puis, vous laissez la place, les gens acheter, à un certain moment, vous allez dire non, ces endroits ici ne sont pas prévus, il faut dégager. Et si ces gens-là vont dégager, ils vont aller où? Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment une grande responsabilité à notre État congolais. Si on a vraiment un État congolais qui est vraiment responsable, et puis ces gens-là prennent un peu ce souci. Regardez aujourd'hui la vie de Kinshasa. Si vous demandez même à notre gouverneur, le plan de Kinshasa, je ne sais pas si sur son programme ou bien sur ce plan, il avait prévu ça. Aujourd'hui, Kinshasa souffre. S'il y a vraiment la pluie, vous allez voir dans ces zones-là, vraiment, c'est impraticable, vraiment. Parce que moi, je me demande, si on avait même des dirigeants qui savaient au moins quelque chose sur notre pays, on n'allait pas subir toujours les mêmes histoires qui se passent toujours. À tout moment, on doit toujours répéter tout ça. Je dis, cette année, ça, c'est le quatrième sujet qu'on parle toujours, toujours ces histoires. C'est ça aussi ma préoccupation.
Merci beaucoup. Hein. C'est plutôt un regret que M. Roger manifeste hein, ici au niveau de la ville de Kinshasa. Cette fois-ci, allons à Kikwit, hein, à Kikwit pour donner la parole à Godé, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à monsieur l'invité.
Oui, dites-nous, monsieur Godet, s'il vous plaît, quel est le constat que vous faites concernant les zones humides et les zones inondées qui sont dans la ville de Kikwit?
Vraiment, le plan d'aménagement de la ville de Kikwit est en anarchie. Laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, les zones humides de Kikwit, vraiment, est en broussaille. Donc, par exemple, ici à la ville de Kikwit, si vous connaissez l'histoire d'Ebola, l'Ebola, les gens ont vraiment décédé plus de millions. Mais aujourd'hui que je vous parle, les gens achètent des parcelles à côté, à un mètre, des cimetières d'Ebola. Il y a des ravis qui sont en train de prétendre, de se crier là. Et l'aéroport de Kikwit, l'aéroport donc, international de Kikwit, à un mètre, une grande maison construite en matériaux durables. Et les autorités de Kikwit, les maires de la ville, qui est allé en passant, les anciens maires de la ville, ils voient ça à un mètre, le sable, même à la piste de l'aéroport, une maison construite à 24 chambres, mais à un mètre de l'aéroport, il n'y a pas moyen, pas moyen. On n'arrive même pas à comprendre le pont Kwilu que les Belges nous ont construit en 1900 combien. Jusqu'alors, on achète même des parties. Aujourd'hui que je vous parle, il y a un ravin qui est en train de se créer à cause de l'inondation de la pluie.
Oui, et le pont est complètement ensablé. Lorsqu'il pleut, le pont est ensablé, les gens ne savent pas passer.
Mais oui, ils ne savent pas passer, pas moyen. Les autorités sont là. Les plans de Kikwit, les zones humides, Et même les terrains laissés par les Belges, ça, ce sont des terrains pour que l'État puisse construire plus tard. Mais les autorités font ça. On est en train d'attiser dans des parquets, mais il n'y a pas une poursuite valable. Je ne sais pas si on peut créer une loi pour dire que les zones humides de l'État, on ne peut pas toucher si quelqu'un touche. On les condamne, on les sanctionne. Mais je ne sais pas, ici à la ville de Kikwit, j'ai une question à poser à l'invité.
Allez-y rapidement.
Après combien des années on peut vendre une cimetière, on peut vendre des parties dans une cimetière? Et j'ai bien encore
Oui, monsieur Godet, c'est pas ça l'objet de notre sujet. Nous tablons sur l'importance qu'il y a à préserver les zones humides. Restez sur le sujet, s'il vous plaît.
Oui. Le sujet là, est notre route nationale, les boutiques, c'est à un mètre près même des grandes routes. On construit des boutiques et l'État est là, il passe, il voit. Je ne sais pas, il y a un accident qui vient de se dérouler. Et les véhicules ont entré même dans des boutiques. Heureusement, la personne n'était pas là. Je ne sais pas si l'invité peut nous dire. Il n'y a pas une loi congolaise pour interdire tous ces manigances-là. Vraiment, je m'arrête par là. C'est Godet Kidjongo depuis la ville de Kikwit.
Merci beaucoup, monsieur Godet. Excellente journée au niveau de la ville de Kikwit. Retournons à Lubumbashi, cette fois-ci pour donner la parole à Machaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
À vous la parole, monsieur Machaka.
Oui, monsieur le journaliste, ça m'étonne lorsque l'invité dit qu'il n'y a pas une loi protégeant les zones humides. Lorsqu'on dit que, lorsqu'il y a une loi qui sanctionne la construction anarchique, je crois que ça fait partir des gens qui construisent dans les lieux interdits par le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui... les zones limites, là, ça doit être aussi protégé par les services d'environnement. Or, les services d'environnement existent. Alors, je ne sais pas que faire, qu'est-ce que les services d'environnement font pour la protection de ces zones limites. Aujourd'hui, si vous voyez, messieurs les journalistes, les premières personnes à spolier ces lieux-là, ce sont nos autorités. C'est là où ils voient pour construire leurs plages, construire leurs villas, et ainsi de suite, et pour en profiter de ces beaux
paysages.
Des paysages de ces zones humides, messieurs les journalistes. Alors, nos autorités sont responsables de tout ce qui se passe dans la destruction et le non-respect des zones humides, messieurs les journalistes. Voilà au moins ma contribution que j'avais.
Merci beaucoup. Allons cette fois-ci en Ituri, à Ingbokolo, pour donner la parole à monsieur Boudili. Alphonse, bonjour.
Bonjour Tati, bonjour aux invités, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à partir du centre de négoce Ngbokolo, particulièrement Papa Plus qui est au centre d'Ngbokolo. Je dis merci beaucoup pour les thèmes du jour. Chez nous, les zones humides ont disparu carrément au profit de l'agriculture parce que il y a beaucoup de cultures industrielles ici qui demandent à ce qu'on puisse exploiter les zones humides. Je me rappelle dans les temps, nous, quand on grandissait, on voyait ces zones-là, surtout les marécages. On venait chasser les oiseaux, on venait chasser, par exemple, les chauves-souris. On y voyait des serpents. Il y avait carrément des endroits où vous allez en dessous des arbres là, il n'y a que l'eau même à pleine saison sèche.
Okay.
Malheureusement, tout ça a disparu au profit de l'agriculture. Alors,
C'est Tati.
Oui, allô?
Oui, allô, allez-y, on vous écoute.
Oui. Ma question, c'est celle de savoir, nos deux invités ont parlé de l'avantage, des bienfaits. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi de méfaits de ces zones limites? C'est ça ma question.
Merci beaucoup. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Ingbokolo, monsieur Alphonse, que vous intervenez. Merci d'avoir appelé le temps que les invités répondent à vos préoccupations. Professeur Corneille, dites-nous, quels sont les aménagements qui peuvent être faits dans les zones humides?
Merci beaucoup. Et je me dois rapidement de revenir sur l'intervenant d'avant, celui qui vient de terminer, qui dit qu'il s'étonne que nous disons qu'il n'y a pas une loi. Les zones humides sont des zones écologiques et doivent être protégées par une loi environnementale. Mmh. Entendez par là, par le ministère de l'Environnement et Développement Durable. Et ces lois une fois prises, doivent être respectées par les autres services étatiques, dont le ministère de l'Urbanisme et Habitat, et les autres ministères comme les Mines et Énergie, ainsi de suite. Tant qu'il n'y a pas une loi du ministère de l'Environnement qui protège ces zones, donc il n'y a pas de loi. Parce que l'interdiction de construire dans des zones X ou Y, c'est une loi de l'urbanisme. Mais est-ce qu'il est respecté? L'urbanisme doit respecter une loi environnementale émise par le ministère de l'Environnement. Il n'y a pas une loi qui protège les zones humides dans notre pays, mais ils sont régis par la convention Ramsar. Là, je suis clair. Et pour ce qui est de comment on doit les protéger, les zones humides, le professeur Moutamboué l'a dit, ils constituent des ceintures vertes dans des milieux urbains. Donc, ils doivent rester verdoyantes car ils vont jouer leur rôle d'épuration, de filtre et d'oxygénation. Donc, ils doivent, dans une ville, le ministère de l'Environnement, de l'Aménagement, le ministère de la Coordination Provinciale, par exemple, dans le cadre de Provence, de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, des Mines et de l'Environnement doivent coopérer pour un aménagement spécifique de ces zones humides à travers la ville. Donc, ils constituent comme des jardins botaniques, comme des arboretums, comme des ceintures vertes en milieu urbain. Et comme elles sont humides, elles constituent aussi à l'épuration des eaux et à la filtration de l'inondation. Et quand on dit, l'invité de Lubumbashi a parlé des cas de choléra. Les cas de choléra ne viennent pas parce qu'il y a des zones humides, mais c'est de l'usage. Quand vous jetez les déchets de tous bords, la putréfaction, la décomposition de ces déchets dans des zones qui ne leur sont pas appropriées, ne peut que provoquer une réaction autre que serait l'usage de ces zones. Un autre intervenant a demandé, on a parlé des avantages, mais on ne parle pas des méfaits. Je vous dis, comme une zone naturelle, s'il n'y a pas perturbation par l'être humain, ces zones telles qu'elles sont, elles n'ont pas un danger néfaste à l'environnement humain.
Oui, parce que l'écologie entre en équilibre. Mais c'est
par l'homme, par les rejets, ainsi de suite, qu'ils jouent un autre rôle. Ces zones, même si on dit non, mais les eaux dégagent, mais c'est peut-être à cause de ces eaux-là, il y a les bactéries, il y a les diatomées, le phytoplancton qui font qu'il y ait une dénitrification et lutter contre la pollution urbaine. Donc, en état naturel, ces zones ne sont pas néfastes à l'homme. Mais quand ils sont perturbés dans leur écologie, c'est là qu'ils deviennent néfastes, ils deviennent dangereux parce qu'il y a interaction avec des substances qui ne devraient pas être rejetées dans ces zones-là.
Oui, professeur Corneille Wango, nous rappelons que vous êtes écologiste et enseignant à la faculté des sciences de l'université de Kisangani. Merci d'avoir été avec nous, à la prochaine occasion.
Merci bien Radio Capi et merci bien chers auditeurs. Protégeons nos zones humides, ils sont pour nous un avantage que nous ne devons pas les négliger.
Professeur Moutamboué, l'auditeur, le tout dernier hein, de Imbokolo en Ituri, qui s'est rappelé des zones humides, au fait où ils allaient contempler parfois la nature ou faire la cueillette de certaines plantes et certains animaux. Aujourd'hui, ces zones sont transformées en zones agricoles et il n'y a plus rien.
Mais c'est ce que j'avais dit. C'est tout ça, c'est l'ignorance, c'est tout. Si on connaissait la valeur de ces zones, personne ne le ferait ce qu'on est en train de faire. Tout ça, c'est l'ignorance. Mais dans tout ça, c'est parce que la question, c'est comment préserver ces zones humides. Pour moi, et personne ne me dira le contraire, c'est d'avoir un plan d'aménagement. C'est simple. Un plan d'aménagement. Qui dit
plan d'aménagement? Ce plan a existé auparavant.
En tout cas, les Belges en ont fait, mais on n'a jamais appliqué ça. Jamais. Si on avait appliqué le plan des Belges, on n'allait pas connaître ce que nous connaissons aujourd'hui ici. Et qui dit plan d'aménagement, dit un plan qui a été élaboré par toutes les parties prenantes. Et que, après l'élaboration des plans d'aménagement, on passe par le plan de gestion. C'est là où on verrait, par exemple, le ministère des Affaires foncières faire ce qu'il devait, ce ministère d'aménagement des territoires ce qu'il devait, et ceci et cela. Mais tant qu'il n'y a pas un plan d'aménagement élaboré par tout ce monde, il n'y aura rien de bon.
Il faut qu'il y ait également une loi qui protège, qui préserve, qui édicte au fait les principes mais de préservation de ces sites.
Mais la loi, vous savez, déjà ce qui a été dit, là, nous sommes signataires de la convention de Ramsar. Qu'est-ce que nous faisons déjà? Quel est le rapport? Je n'ai jamais vu le rapport de la RDC. Il y a même une direction de gestion des ressources en eau, dont je suis un des fondateurs. Partout au monde, vous voyez, c'est une direction scientifique de haut niveau. Mais je suis en contact avec mon internet. Je n'ai jamais vu des travaux réalisés dans ces cas de telle zone, voilà les recherches de telle ceci, voilà ce qu'il faut faire. Or, c'est ça les travaux des directions de gestion des ressources en eau. Regardez la qualité des eaux de Kinshasa ici. Est-ce que vous avez déjà lu un livre ou une publication de haut niveau qui vous dit comment, par exemple, les effets des inondations, les conséquences de la disparition, par exemple, des zones humides au niveau de Ngili Brasserie? Jamais vu. Alors, tout ça, il y a un méli-mélo, une bouillabaisse dans ce que nous faisons. Ce n'est pas possible. Tout ça aussi, c'est le fruit de recherche. Et comme il y a un ravin entre les administratifs, les scientifiques qui n'ont rien, alors comment voulez-vous? Si aujourd'hui, je travaille.
Mais maintenant, là, les conséquences, elles sont visibles. Et nous vivons chaque saison des pluies. Et
mais
parfois, c'est compliqué. Et en saison sèche, donc les conséquences, elles sont là.
Mais avant-hier, j'étais avec les étudiants qui font le DEA en environnement. Nous étions à la confluence de la rivière Nséré. Mais il faut voir l'ensablement. Qu'est-ce qui se passe? On a fait des carrières en haut. On prend les sables là-bas, les zones humides, donc les berges sont foutues. Alors après le pluie, l'ensablement, maintenant là, la confluence fleuve Congo, rivière
Nsele,
c'est fini bientôt. On va commencer à traverser à pied. Mais qui donne les autorisations? Parce que ce sont des commerçants, ils ont toutes les autorisations du gouvernement. Donc, tant qu'il n'y a pas un plan d'aménagement suivi de plans de gestion durable, parce que ce n'est pas n'importe quelle gestion, mais une gestion durable, on vivra toujours dans la bouillabaisse.
Nous le considérons comme votre dernier mot. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Radio Capi, professeur Moutambou Shango. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en écologie du milieu aquatique. À la prochaine occasion, merci d'avoir été avec nous pour édifier les auditeurs sur ces sujets. Oui, c'est par ici que s'achève le magazine Okapi Service que vous a présenté Tati Mapoukou, sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo a coordonné et supervisé ces numéros et Jean-Noël Mokondo était à la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous d'Okapi Service. À bientôt. Será que